Space, le magazine des arts visuels. Bonjour chères auditrices et auditeurs, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur les ondes de Radio FM+. Bienvenue dans une nouvelle saison de l'émission Open Space, le magazine des arts visuels sur 91 FM. Au micro, Nathalie Belaïche. Au fil des émissions, nous allons à la rencontre des artistes, des acteurs culturels et des lieux à Montpellier sur son territoire. Avec nos invités dans Open Space, nous parlons art plastique, photographie, vidéo, cinéma, performance, mais aussi graphisme, édition ou encore mode ou architecture. Le magazine Open Space est diffusé un mardi sur deux à 12h10, puis en rediffusion, toujours le mardi, à 18h10. Et bien sûr, Open Space est à redécouvrir et à partager en podcast via radiofmplus.org/openspace. Les arts visuels, on ne les voit pas, mais on en parle dans Open Space et c'est tout de suite avec nos invités. Aujourd'hui dans Open Space, j'ai le plaisir de recevoir les artistes Elisa Fantozzi et Elsa Bress. Bonjour.
Bonjour.
À l'occasion de l'exposition Sol, la Biennale du Territoire organisée par Montpellier Contemporain, autrement dit le MOCO, Sol se tient au Centre d'Art Contemporain La Panacée depuis le 2 octobre et jusqu'au 9 janvier 2022. Elisa, vous êtes autodidacte, plasticienne, sculptrice, performeuse, vous vivez et travaillez à Sète depuis une vingtaine d'années. Votre double Lily d'ailleurs a été choisie pour l'image, le visuel de l'exposition Sol à la Panacée. Et vous, Elsa Bress, vous êtes architecte et cinéaste, vous réalisez aussi des installations, vous êtes diplômée du Frénois et de l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville. Vous enseignez aussi l'architecture. Vous êtes installée à Bréau près du Vigan et vous présentez des séquences du film Les Sanglières, tournées dans les Cévennes, dans l'exposition. Et on en reparle dans un instant. Donc, vous êtes donc réunis aujourd'hui à l'occasion de votre participation à l'exposition Sol, qui est la première édition d'une biennale du territoire consacrée à la scène artistique locale, qui est organisée, comme je le disais, par Montpellier Contemporain. L'exposition rassemble 31 artistes, tous médiums et générations confondues, autant d'hommes que de femmes, ou presque plus de femmes que d'hommes d'ailleurs. Cette exposition, donc le point commun qui réunit les artistes est donc de travailler sur le territoire languedocien qui va de Sète à Alès et de Nîmes à Béziers. Cette première biennale s'intitule Un pas de côté. Elle a été organisée sous la direction artistique de Vincent Honoré et un commissariat assuré par Ramona Boutayeb, Caroline Chabran et Pauline Faure. D'ailleurs, le parcours de l'exposition des œuvres s'articule autour de trois axes. Le rapport à l'histoire, le rapport à la société et le rapport à la nature. Et en guise de mise en bouche pour cette émission, on écoute tout de suite Caroline Chabran, l'une des commissaires de l'exposition.
Alors Sol, c'était vraiment l'idée de se rattacher à un territoire. Donc c'était assez logique pour nous d'utiliser le mot sol. Et en plus, ça veut dire soleil en occitan et en espagnol. Donc c'était aussi se rajouter à une communauté. Un pas de côté, c'était vraiment se poser la question de travailler un peu différemment, de travailler en faisant un pas de côté sur notre pratique habituelle, puisque ce sont les rencontres des ateliers qui ont fait qu'on a créé les trois sections ou les trois thèmes de l'exposition, et on présente parfois des œuvres qui sont un peu de côté de ce qu'on pourrait présenter habituellement, des œuvres qui pourraient être attachées à l'art brut ou à l'art naïf. Et on présente aussi des œuvres qui sont parfois un pas de côté dans les pratiques habituelles des artistes, comme Daniel Dezeuze ou Claude Vialac, desquels on présente des objets moins connus que leurs pratiques habituelles. Quand on prépare une exposition, quelle que soit l'exposition, c'est un point de vue subjectif sur un thème à un moment donné. Et c'est vrai que nous, on a eu envie de montrer un panel assez large d'artistes qui sont nés entre 1937 et 1993. Pour nous, c'était important de montrer les différentes générations et que surtout il y ait des connexions naturelles entre ces générations et des échanges et des discours entre leurs œuvres et même entre les personnes en fait. Donc ça, c'était important pour nous et on a aussi été éclectique ou assez large dans les lieux où habitaient les artistes, puisqu'on va dans notre diamètre, on va entre Nîmes et le fond du Gard à l'est et un peu après Béziers à l'ouest, et Sète au sud jusqu'au fin fond des Cévennes avec Elsa Bress au nord.
Voilà, donc Caroline nous a un peu présenté l'exposition. Mais justement, en fait, cette exposition, Sol, Biennale du Territoire, réunit la scène locale. Enfin, fait un focus sur la scène locale. Et justement, pour vous, qu'est-ce que ça veut dire faire la scène artistique locale et faire partie de la scène artistique locale? Quelle est l'influence, à votre avis, sur votre travail ou votre pratique, l'influence du lieu, du territoire, voilà. Est-ce qu'on peut dire que ça joue pour vous?
Le paysage.
Elisa?
Oui, pardon.
Elisa?
Ben, moi, j'ai une approche de chacun de mes projets qui est très ancrée dans les lieux, qui part vraiment des lieux. Et c'est vrai que cette installation que je montre au MoCo, les sanglières, partie 3, séquence 1 et 2, et fait partie d'un film qui est ancré dans ce territoire des Cévennes où je vis depuis 3 ans sur la commune de Bréau. Et du coup, le projet en lui-même est entièrement lié, part de ce territoire, de son épaisseur à la fois historique, politique, esthétique, évidemment.
Donc c'est le matériel, quoi, en fait.
Tout à fait, ouais.
Et vous, Elisa, parce que vous vivez à Sète, donc Sète aussi est une ville d'artistes,
oui.
Une ville connue pour son rayonnement culturel, pour cette communauté, etc.
A impacté ce qui impacte mon travail au niveau du territoire et si ce travail-là ne pourrait pas aussi bien être dans de grandes villes ou comme j'ai aussi voyagé et... Donc je suis pas sûre, alors on dit souvent le sud, Sète, les couleurs via la figuration libre. En même temps, bon, je suis pas forcément inscrite là-dedans.
Oui, c'est un endroit où vous vivez, vous aimez vivre.
Voilà, c'est ça, oui, voilà.
Oui, parce qu'en fait, bon, la scène locale, c'est vrai que parfois, en tout cas là, on attendait un petit peu aussi cette exposition pour avoir cette photographie, en fait, parce qu'il y a énormément d'artistes quand même, sur le territoire, comme on dit, entre Montpellier, Nîmes, Sète, il y a une histoire aussi de mouvements artistiques, autant Nîmes, Montpellier que Sète.
Oui.
Et on attendait aussi une exposition qui fasse un petit peu un sorte de constat, on va dire, en tout cas un focus sur la scène artistique de la région
ça ouvre et en même temps
ça redonne un nouveau souffle peut-être et permet aussi de poser un petit peu aussi qui sont les artistes, de repérer surtout même si les commissaires ont fait un travail de repérage mais aussi pour le public, pour les autres artistes aussi de voir, comme disait Caroline dans son interview, aussi des connexions, peut-être, qui sont palpables ou non, quoi. Enfin, voilà, moi, je pense pas qu'il y ait non plus un style, comme on a pu avoir la figuration libre ou support surface ou des choses comme ça. Il y a plus ça aujourd'hui, quoi, au contraire, parce qu'il y a un éclatement, etc. Mais bon, il y a... Voilà. On peut retrouver quelque chose ou pas, mais en tout cas, chez vous, je me disais aussi, Elisa, c'est aussi dans la façon peut-être de collecter du matériel sur le territoire.
Oui. Enfin,
parce qu'il y a la plage, les garrigues, etc. C'est aussi des sources, peut-être.
Est-ce que je suis vraiment là-dedans? J'ai pas une grande. Je pense que. Oui, il y a beaucoup de récupération dans mon travail, peut-être dans certains. Oui, le début, Les Vierges, par exemple.
Ouais.
Toute cette série qui date d'il y a presque 20 ans. Où j'ai vraiment commencé à collecter ces symboles religieux et repeindre et les réinterpréter. Donc là, je pense que ça fait partie d'une de la France, quoi. Enfin, pas forcément que de Sète, mais c'est vrai que plus on va dans le sud, plus on trouve dans les niches des villages ces effigies, ces vierges. Et donc, le premier rapport à la sculpture de cette femme m'a interpellée. Et la suite a été de travailler la technique du moulage, de faire mes propres moules et en fait... Faire des sculptures me représentant dans ce monde sculptural, finalement.
Enfin. Bah, on va y revenir, mais on va faire une petite pause musicale, une première pause musicale. This is a Missy Elliott exclusive. Yeah. Walk up in the thing, I be on my game.
with all these babies, call me Captain Jack Saint. Please don't steal my style, I might cuss you out. What you doing now? I did for a while. Missy, 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 go ahead, let it snap. I'ma snatch they wigs till I see that scap. Booty, booty claps, flying across the map. Lambo on the block, looking like a snack. I show you how I do it, show you how it's done. Don't look for another missy, cause there be no another one.
Watch me
throw it back, watch me throw it back, watch me throw it back, watch me throw it back, watch me throw it back. Throw it back, throw it back, throw it back, watch me
throw it back,
watch me
throw it back,
watch me
throw it back,
watch me
throw it back,
watch me throw it back, throw it back, throw it back, throw it back. Middle finger flip, get up off my tip, money, money, clip, clip, Louis on my hip, Lambo be the whip, like banana split, split. Look at all my eyes, see the way my jewelry drip. Come up off that lit lit, yeah, he wanna gig it, but he cannot gig it, unless he be my digit. Call me Missy Mitt Mitt, I don't play them titches. Man, I'm so legit, just watch me flip, reverse it, flip it and reverse it, stupid with the verses. Man, I got the coat and shoes just to match the purses. I don't need rehearsing. The way I throw it back, I show the whole crowd how I work it. Throw it back, throw it back, throw it back, throw it back. Watch me throw it back, watch me throw it back, watch me throw it back, watch me throw it back. Records for tweet before y'all can even tweet. Y'all be thinking shit sweet, been hot before you can speak. I'm like MVD, everyone let me capiche. Need a PJ when I'm taking flight. Get your review and your ratings right. Missy still got them losing control, and every night still ladies night. Watch me throw it back, throw it back, throw it back, throw it back. Watch me throw it back.
Vous avez choisi cette, cette chanson de Missy Elliott. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Pourquoi ce choix?
Oh ben, parce qu'il envoie du bois, il réveille, et puis que c'est encore une histoire de territoire, le rap, quelque part, et que cet artiste, Missy Elliott, là, prend les rênes, en fait. Et dans le clip, il y a tout un, le début qui est dans un musée où elle... Et sont repris Van Gogh, Picasso, et c'est elle, en fait, dans les tableaux. Donc, ses autoportraits, avec la trace des maîtres. Et ça m'a plu.
Eh bien oui, l'autoportrait, oui. Lisa, c'est aussi un thème qui vous est cher. Mm-hmm. Enfin, en tout cas, oui, qui vous est cher, hein, puisque Lily, votre double... Mm. Vous accompagne depuis de nombreuses années et d'ailleurs on la retrouve évidemment à la Panacée, et là il faut lever la tête, c'est sur le toit, donc elle est là présente jour et nuit, veille sur l'exposition, c'est aussi le carton d'invitation qui a été choisi, donc pouvez-vous nous parler un petit peu de l'histoire de, cette, de cette, ces autoportraits en fait, de ces Lily? C'est bah du moulage.
C'est pense une histoire d'origine au départ, une histoire même de conception, je pourrais dire, et comme une naissance. C'est une renaissance. D'ailleurs, j'ai fait une pièce qui s'appelle Renaissance, qui pour le coup est un énorme coquillage. Mais là, ces doubles sont entre 2005 et 2007, toujours dans des situations assez, je dirais, méditatives, assez hors sol. Il y en a une qui flotte, une qui regarde donc le ciel. Une qui fait le cochon pendu et une qui est dans les bras de ce Christ, une espèce de Pietà inversée, je l'appelle inspiration-expiration. Donc Envie d'être en vie qui fait l'affiche actuellement de l'exposition Sol est à la fois figée dans le temps, et ça j'avais pas forcément réalisé en les faisant entre, en 2007 par exemple celle-ci, que j'allais rester pétrifiée, telle une momie contemporaine, quelque part. Donc il y a une idée du temps qui s'arrête, mais qui met en exergue le temps qui passe, parce qu'elle est vraiment dans l'espace vivant, sur le toit d'un bâtiment, là, qui est la Panacée, mais qui a été...
Oui, elle est vivante parce que vous l'avez montré dans divers endroits.
Et que justement, c'était aussi un travail en résine qui permet d'être exposé en extérieur et qui est voué à être exposé en extérieur. Ce travail-là fonctionne moins bien, je dirais, en intérieur. Et donc, c'est aussi mettre le point sur ce qui est vivant. Et je suis souvent entre les... Enfin, j'aime penser aux arts vivants et aux arts plastiques et les frictionner comme ça, comme une espèce d'art plastique, quelque chose de plus mort. Et les arts vivants, enfin, voilà, je cherche...
Qui réveille un petit peu, quoi.
Ouais, ouais, c'est les objets... c'est l'objet de mes préoccupations.
Cette confrontation entre art plastique et art vivant.
Oui.
Et là, parce qu'en fait, aussi, ce qu'on retrouve quand même dans votre travail, assez souvent, s'il y a toujours pour moi cette lisière entre légèreté et gravité. Parfois, on me dit, ah, mais oui, mais c'est drôle. Mais en fait, c'est toujours des thèmes plutôt sérieux, on va dire. Voilà.
Ça, c'est la sculpture, légèreté, gravité, c'est quand même des...
Aussi, ça fait partie du poids, quoi. C'est le poids aussi, mais après, aussi dans l'appréhension. Enfin, je veux dire, l'effet que fait votre travail quand on le regarde, quoi. Voilà, c'est ça que je veux dire.
Oui, lisière, mort-vie, je dirais aussi. Il y a quelque chose... Mais c'est une espèce de trajectoire. J'essaie de parler de l'existence, tout bêtement, mais voilà, des origines jusqu'à l'inconnu. Enfin, tout est un peu inconnu, d'ailleurs, entre le début et la fin. Après, il y a le parcours. Et de mettre les deux comme ça, ensemble. Donc, c'est des choses très communes, en fait. C'est des lieux communs. Je parle aussi de lieux communs, mais qui nous échappent, quelque part.
Le cerveau, par exemple, ça, c'est des pièces aussi que vous avez déclinées, en petit, en grand. Enfin, voilà, c'est des thèmes qui vous préoccupent. En tout cas, ça, c'est au centre de votre... C'est la vie, quoi, aussi, le cerveau.
Oui, tout à fait. Ce sont des objets, et plastiquement aussi très intéressants. Et du coup, le cerveau, on parle de plasticité, donc il y a aussi des échanges comme ça entre le mot, le vocabulaire et la forme. Et ça, c'est aussi ce que tout... aussi entre matière et immatière, quelque part, entre ce qui naît et qui va être tangible et ce qui ne l'est pas.
Et dans le cadre de l'exposition, vous interviendrez aussi sous forme de performance. Enfin, vous allez faire des performances.
Oui, oui.
On n'a pas la date encore. Non. Je crois que ça, il faudra regarder sur le site moco.art, dans l'agenda. Mais voilà, ces performances seront... c'est une nouvelle performance. Vous allez créer une performance pour l'exposition.
Oui, okay, ça me fait vachement flipper, d'ailleurs. Parce que le temps passe vite et que c'est finalement assez bientôt et que chez nous, les artistes, on est souvent sur plusieurs
projets
en même temps parce qu'on ne sait jamais justement de quoi demain sera fait quelque part. Et donc voilà, mais j'ai quelques idées. J'essaie de le prendre, de me donner des éléments qui fassent que ça sera cool pour moi.
Oui, et ça sera une seule, c'est une seule fois.
Oui.
Donc voilà, donc ça sera courant novembre-décembre. En décembre,
oui.
La date exacte, chers auditeurs, à vérifier sur le site moco.art. Voilà, mais en même temps, en parallèle à cette exposition, vous menez aussi, c'est aussi ça fait aussi partie de l'action de soutien aux artistes du MOCO, vous êtes en résidence à la faculté d'éducation de Montpellier. Et ensuite à une école primaire. Bon, pour l'instant, c'est à la faculté d'éducation. Il y aura une exposition en décembre. Et là, qu'est-ce qui se... Enfin, voilà, vous travaillez sur quoi? Qu'est-ce qu'on pourra voir à l'exposition prochainement?
Alors là,
comment se déroule cette résidence?
J'étais juste avant de commencer la résidence, j'avais une massue un peu... Ouais, préhistorique et que je voulais mouler et donc décliner parce qu'il y a quand même beaucoup la pratique du moulage dans mon travail. Et comme une espèce de mise en abîme d'un objet comme ça que je vais... en même temps, je ne fais pas de grandes séries. Mais, donc il y a cerveau, massue et miroir. C'est là les grandes lignes. Est-ce que les massues vont casser les miroirs? Les cerveaux, est-ce que les cerveaux... Et je compte travailler l'image projetée en fait sur ces plâtres que je tire, que là je ne peins pas. Et donc, c'est des réflexions sur ces trois objets qui se répondent, en fait, avec tout ce qui est le cerveau primaire, pariétal, avec les neurones miroirs, avec les miroirs qui viennent aussi par rapport à la fac d'éducation. Bon, bien sûr, le cerveau, c'est évident.
Mais il y aura de la couleur aussi, je crois, non?
Ben, ça, c'est un travail que j'ai déjà sorti, là, pour faire des expériences, parce que tout est en recherche, hein, pour l'instant, malgré que l'expo soit le 2 décembre, donc ça approche, mais peut-être l'école, oui, primaire, élémentaire, où je devrais continuer cette résidence, je sera plus dédicacée à un pantone de couleurs assez large et aux interprétations des couleurs. Mais voilà, c'est les stimuli du vivant aussi. Là, les couleurs vont être peut-être projetées. J'ai déjà amené des spots, un peu de disco, pour voir ce que ça faisait sur les cerveaux, sur les cerveaux en plâtre.
Mais parce que la musique disco sur les cerveaux, ça a fait de l'effet aussi.
Oui, voilà. Il y a ces recherches en cours.
Bon, ben, on retrouvera tout ça dans l'exposition à la faculté d'éducation. Je mets l'adresse, si vous la trouverez sur le site radiofmplus.org. L'exposition se déroulera du 2 décembre au 28 janvier 2022 et on vous retrouve bien sûr à l'Expo Sol à la Panacée jusqu'au 9 janvier. Et on va faire une nouvelle petite pause musicale.
Il y avait un homme ce matin, comme hier d'ailleurs, il y avait un homme ce matin sur le cul, il y avait un homme ce matin ainsi qu'une femme. Le cul. Comme hier d'ailleurs, il y avait 10 hommes ce matin, ainsi que 10 femmes sur le cul, des enfants couraient mignons après les pigeons qui s'envolaient. Se reposait, s'envolait. Comme hier d'ailleurs. Puis se reposait. ainsi que 110 femmes sur le cul.
Donc vous écoutez toujours Open Space, le magazine des arts visuels consacré aujourd'hui à l'exposition Sol, la Biennale du Territoire à la Panacée à Montpellier. Et nous sommes toujours en compagnie de Elisa Fantozzi et Elsa Bresse. Alors Elsa Bresse, vous êtes artiste, cinéaste, voilà, vous faites des films. En tout cas, c'est ce qu'on voit dans l'exposition à la Panacée. C'est des séquences d'un docu-fiction, d'une fiction documentaire. Qui s'intitule « Les sanglières ». Pouvez-vous nous présenter un petit peu ce projet?
Oui, bah
alors, c'est une docu-fiction ou une fiction documentaire?
Alors, un documentaire spéculatif. Je ne sais pas, il y a toujours des façons, mais c'est un film qui est part de recherche documentaire, mais qui après s'échappe.
Voilà, il y a une part de réel, une part de réel et une part de narration un peu, qui part.
Exactement, ouais. Et donc c'est un film, donc c'est quelques séquences d'un film qui est en développement, qui n'est pas encore complètement tourné, mais on a fait un premier tournage et c'est ça qui est montré. C'est le début de la troisième partie de ce film. Et c'est un film qui parle d'alliances possibles entre des humaines plutôt, et des sangliers. Et donc, le film sera en trois parties, beaucoup plus large. Mais là, on est dans cette dernière partie du film, le début de cette dernière partie du film, où on est avec un groupe de personnes, plutôt de femmes, mais pas que, et qui habite une maison, qui squatte une petite maison, qui prépare quelque chose, une action, on ne sait pas très bien encore quoi.
Oui, les séquences qu'on voit sont mystérieuses, quoi.
Oui, l'idée c'était de donner une sensation du film plutôt que de l'expliquer. Et donc du coup, et qui prépare une action, on ne sait pas très bien, et on découvre que cette maison est entourée, c'est des gens qui vivent avec les sangliers, et cette maison est entourée de sangliers.
Et la figure du sanglier, justement, aussi, vous l'avez utilisée comme symbole, quelque part. Enfin, c'est un véhicule un message.
Oui, en fait, j'ai toujours passé du temps dans les Cévennes, mais je me suis installée vraiment dans les Cévennes il y a 3 ans. Et voilà, il y avait comme ça cette... tout le monde parlait des sangliers. Ça m'a vachement intéressée au début parce que, en faisant un peu des recherches, je voyais que dans l'histoire de l'art, on représente le sanglier comme une sorte de solitaire viril. Et alors, quand on fait un peu des recherches sur le mode de vie réel du sanglier majoritaire, on découvre que c'est des groupes plurimatriarcaux qui vivent la nuit, donc menés par des femelles, qui respectent pas les limites de propriété et qui vivent en bande, en collectif la nuit. Et ça m'a vachement intéressée.
On écoute d'ailleurs un extrait un petit peu pour donner l'ambiance du film, un extrait de la bande-son du film.
Ouais.
Cette musique a été composée spécialement pour le film?
Oui, par la compositrice Meryl Hamp, avec qui je collabore maintenant sur... c'est la quatrième film. Ouais.
Ok. Et dans le film, justement, on croise... la séquence que j'ai pu voir, que l'on peut voir découvrir dans l'exposition, on croise différents personnages. En fait, comment ces personnages ont été choisis? Est-ce que c'est des acteurs? C'est des...
Alors,
c'est des gens que vous connaissez, c'est des gens du coin. Enfin voilà, ça c'est intéressant aussi cet aspect-là, je trouve.
Et ben c'était en fait une grande partie aussi des recherches du film. Il y avait une des hypothèses du film, c'était si on essaye de se mettre du côté des sangliers et de voir quel territoire on découvre de leur côté plutôt que d'être du côté qu'on connaît, des grandes routes, etc. Mais si on se met dans les petits chemins à l'arrière la nuit, dans des endroits où on respecte pas les limites de propriété privée, qu'est-ce qu'on va voir, et du coup qui pourrait s'allier en fait à des modes de vie comme ça, qui pourrait avoir envie de s'allier à des sangliers. Et donc à partir de ces hypothèses, j'ai rencontré pas mal de gens plutôt dans ma vallée. Il y en a certaines qui viennent d'un peu plus à l'extérieur, en se posant cette question toujours. Alors il s'avère que moi, le sanglier, avec mes hypothèses bien sûr, je l'imagine aussi comme un allié de réflexion, voire de lutte anti-patriarcale, anti-capitaliste, dans ce rapport à la propriété privée. Alors du coup, les différentes personnes qui ont participé là à cette troisième partie, qui continueront à jouer dans le film, sont des personnes qui habitent la vallée, plutôt des femmes. Il y a aussi deux hommes transgenres. Il y a ma voisine qui a 75 ans, qui est une Cévenole, qui a grandi là. Une amie, toutes sont devenues des amies, mais...
C'est une production locale, quoi, en fait.
Très locale. Oui. Mais aussi avec l'idée d'avoir un groupe hybride, c'est-à-dire pas faire jouer ma bande de potes, mais vraiment trouver une...
Vous avez repéré quand même, fait un petit travail de casting sauvage.
Voilà, mais avec l'idée que chaque personne puisse avoir vraiment dans son mode de vie ou dans son existence quelque chose qui puisse faire lien avec ses hypothèses. Voilà.
En écho avec le rôle qui lui est attribué dans le film.
Exactement. C'est à l'endroit où on est aussi à la fois documentaire et fiction, puisque je les déplace, mais il y a un point de départ commun.
Ouais. Et dans son format final, le film aura quelle durée ?
Alors, c'est tout. J'imagine.
Travail, pour
l'instant,
mais...
J'imagine de l'ordre de 45 minutes, peut-être quelque chose qui est encore encore dans la catégorie court-métrage, moyen-métrage.
Et ce film est destiné à une diffusion dans le cadre des musées, ou bien dans le cadre institutionnel, ou bien plutôt aussi en salle, en festival,
C'est un peu l'endroit où moi je me situe, aussi un peu en lisière, à la fois dans le milieu du cinéma et dans le milieu de l'art contemporain. Et donc, en tout cas, pour les films que j'ai fait avant, ils commencent leur vie en festival de cinéma. Et ils sont montrés dans des expositions, musées. Là, ce qui est particulier, c'est que la séquence que je montre, elle a été montée spécialement pour une exposition, c'est-à-dire qu'elle a un format de boucle vidéo. Elle n'a ni début ni fin, pas de générique. Et donc, ça que j'aime bien, c'est aussi trouver des formes spécifiques.
Comment montrer un film ?
Exactement. Comme on ne sait pas à quel moment les gens vont arriver, combien de temps ils restent. Il y a un effet aussi un peu de vertige, comme ça. On ne sait pas, est-ce qu'on a déjà vu cette image ? Il y a le titre qui arrive un moment, mais pas du tout au début. Enfin, voilà. Et donc, les choses s'en mêlent. Et ça, j'aime bien.
Et il y a aussi une installation, en fait.
Il y a une sculpture aussi.
Une sculpture au mur. Ouais. Et ça fait partie aussi de... Enfin, quand vous faites des films, vous y avez aussi cette double casquette, on va dire.
Oui, c'est des façons de réfléchir au film. C'est à partir de quand je suis en train de lire des choses, rencontrer des gens. C'est des formes qui émergent pendant l'écriture, en fait. Ouais, voilà. Donc, je me considère plutôt comme cinéaste faisant des installations vidéo, mais il y a aussi des formes... de sculptures, de dessins qui émergent dans l'écriture. Et là, c'était une volonté des curatrices aussi de montrer...
Des à côté.
Un volume qui puisse accompagner l'image en mouvement.
Ouais. Et donc, le film, là, vous êtes en développement pour l'instant. Ouais. Donc là, on voit juste, un teaser, on va dire, pour parler dans le jargon filmique du film. Mais ce film, il en est à quel stade aujourd'hui ? En fait, je crois que le Moco est aussi coproducteur.
Oui.
Voilà, avec Mécènes du Sud, mais aussi avec le CNC, avec la DRAC, le CNAP.
Le CNAP et la DRAC, oui.
Voilà, et puis, mais en fait, vous en êtes là...
On a tous ces soutiens ont permis le développement, ce qu'on dit, c'est-à-dire l'écriture, faire un premier tournage, comme j'ai fait, pour un peu tester le dispositif de cinéma que je voulais mettre en place. Et là, on est en train de, avec la structure de production et Linka Film, avec lesquels je produis le film, on est en train de déposer des dossiers de financement pour entrer en phase de production, c'est-à-dire avoir des soutiens, de, pas à la recherche, mais vraiment à la production.
Oui, pour le tournage.
Pour les autres, pour les tournages à venir, ouais. Voilà.
Et la post-prod ensuite.
Quoi. Et la post-prod ensuite, voilà. Ouais.
Donc en fait, en gros, c'est un film qu'on verra, qu'on pourra voir dans son intégralité d'ici... Enfin après, oui, c'est un petit... On ne sait pas encore.
Pas avant un an, ouais.
Pas avant un an.
Ouais.
Bah, très bien, mais écoutez, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ?
Non, peut-être juste remercier toutes les personnes qui participent avec moi à ce projet, dans les Cévennes et ailleurs, voilà.
Bon, et donc votre maison de production, c'est Elinka Film.
Elinka Film,
ouais. Et c'est une maison de production qui est basée dans la région aussi ?
Alors non, mais c'est une maison, de production avec laquelle on essaye d'inventer des formes de production horizontales, c'est-à-dire que c'est plutôt des réalisatrices et on travaille chacune sur les projets les unes des autres, donc en se passant vraiment du rôle de producteur professionnel, voilà, pour trouver des modes de production de films un peu alternatifs.
C'est de la collaboration.
Exactement, ouais.
Oui, ce sont des nouveaux formats de maisons de production, on va dire.
Exactement, ouais.
Et bon, bah très bien, bah on va faire une dernière pause musicale avec Natiot, qui fait aussi partie de l'exposition.
On se suit. On va se suivre encore, un des un, prendre la petite route, là, après le buisson qui a une drôle de forme. C'est parfait la petite route. On sera isolé sur la petite route, on ne croisera personne. On ne se battra avec personne. Il n'y aura pas de combat, même pas dans les yeux. Ça ne saignera pas dans les yeux. On aura la paix, la sensation de la paix. Par la petite route, c'est sûr, il n'y a que des cailloux morts et des bêtes peureuses. Au-dessus, des mouches folles. On va écraser la terre, Indy. On va écraser la terre. On va écraser la vie, Indy, hein. On va les faire se mettre à genoux. Toutes nos manières d'être qui ne nous ressemblent pas, qui sont venues par erreur, qui nous tournent dans le ventre. Et l'ennui aussi aplatit sous nos pieds. On va écrabouiller ensemble. On va profiter de la petite route. On va pas se gêner, jamais on profite. Non, on va pas se gêner, jamais on profite. On va se dire des choses aussi, n'importe quoi. On peut parler sur la petite route. Et si tu me trouves belle, c'est pas grave. Les mots feront ce qu'ils veulent. Les mots ne valent que pour ce qu'ils procurent. Ça sent déjà la fin de tout ce qui nous lasse. On a presque gagné, puisqu'on se suit, hein? Puisqu'on va se suivre encore. C'est là, c'est juste là. Après le buisson qui a une drôle de forme. On arrive au buisson, on y est. Allez viens, c'est juste là. Les habitants du monde sont arrivés par une petite route, j'en suis sûre.
Nous venons justement d'écouter le duo Natiote Cassan et avec une chanson. Enfin, ça nous permet de parler de Natiote. Natiote est une auteure, poète, chanteuse, performeuse. Et durant l'exposition, elle va lire des extraits de son dernier ouvrage qui s'intitule « Ils », sont un recueil de textes. Et ce sont, selon les mots de Natiote, des lectures surgissantes. C'est-à-dire qu'elle apparaîtra à des moments de l'expo. Voilà, c'est si vous venez visiter l'expo, peut-être vous tomberez sur Natiote, peut-être pas. Mais en tout cas, si elle est là, n'hésitez pas à l'écouter. Et voilà, et sinon dans l'exposition, en fait, il y a des pastilles au sol qui marquent les passages de Natiote. Natiote est passée là ce jour-ci, ce jour-là, voilà. Donc ça nous permet également de parler du programme des performances et qui auront lieu durant l'exposition sol. La Biennale du Territoire et qui s'intitule cette année « Un pas de côté » pour cette première édition jusqu'au 9 janvier à la Panacée à Montpellier. Donc il y aura des performances avec Aldo Biascamano, avec le duo Beckmann et Sago, avec Natiote, je viens d'en parler, et avec Elisa Fantozzi que nous avons reçu, notre invitée du jour. Toutes ces performances en fait se dérouleront entre novembre et décembre. Et sont indiquées sur le site du MOCO, moco.art. Voilà, et il ne faut pas oublier non plus que pendant l'exposition, il y a aussi, enfin, c'est présenté pendant l'exposition, c'est une collection de fanzines qui a été confiée, enfin, un projet qui a été confié à Renaud Le Plat Torti. Donc, il y a une collection de la fanzinothèque de Poitiers, et aussi sont présentés des éditeurs et auteurs de fanzines locaux, comme Carbone, La Table, ou alors Entrée Libre. Pendant ce mois de janvier, enfin en novembre ou décembre, il y aura également des concerts. Voilà, mais le tout, c'est vraiment là. Vous pouvez consulter tout ça sur le site moco.art. Voilà, et donc nous sommes toujours sur Radio FM+, en compagnie de Elsa Bress et Elisa Fantozzi. Merci à vous, Elisa et Elsa, d'avoir participé à cette émission. Je rappelle les horaires de l'exposition à la Panacée, c'est du mercredi au dimanche de 12h à 19h. L'entrée est libre et gratuite. Donc toutes les informations sont bien sûr à retrouver sur le site moco.art. La résidence, Elisa a une résidence et la restitution d'une résidence, excusez-moi, à la faculté d'éducation de Montpellier. La restitution de la résidence sous forme d'exposition se déroulera du 2 décembre au 28 janvier 2022. Et vous pouvez retrouver toutes ces informations dans la rubrique Open Space sur le site radiofmplus.org. Voilà, chers auditrices et auditeurs, Open Space, c'est fini pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous mardi 2 novembre pour une prochaine émission sur les ondes de Radio FM+. En attendant, vous pourrez nous réécouter sur 91 FM ce mardi à 18h10 pour la rediffusion de l'émission et partout ailleurs aussi en podcast en suivant le lien radiofmplus.org/openspace. Et n'hésitez pas bien sûr à partager le lien du podcast. Voilà, c'était Nathalie Belaïche au micro de Radio FM+. À bientôt.